Bien, alors comme l'enregistrement que nous avions fait lors de ce cours malheureusement n'a pas pu être récupéré, je refais un enregistrement, sachant que c'est pas celui qui a été diffusé ni sur 144 MHz ni via TeamSpeak, c'est un enregistrement que je fais par la suite et qui donc porte sur la première partie des connaissances techniques de base pour l'examen de réglementation. Alors, premièrement, ce qui est très important, c'est que contrairement à son nom, l'examen de réglementation porte aussi sur des connaissances techniques. Alors, ce sont des connaissances de base, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de développer énormément toutes ces connaissances-là. Par contre, il y a certaines notions à connaître et à parfaitement maîtriser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que grosso modo, en moyenne, il y a un quart des questions qui portent sur cette partie, donc que l'on va voir là tout de suite et qui fait l'objet aussi d'une deuxième séance. Cette première partie concerne d'une part tout ce qui concerne les décibels et d'autre part tout ce qui concerne les caractéristiques des antennes. Tout le reste, c'est-à-dire les lignes de transmission, les brouillages et les protections contre les brouillages, donc tout ce qui est compatibilité électromagnétique, ainsi que tout ce qui est protection électrique, se fera dans le prochain cours. Donc, en fait, cette séance porte d'une part sur les décibels et d'autre part sur les antennes, et c'est à chaque fois une petite partie des décibels et une petite partie des antennes, sachant qu'il y a des connaissances complémentaires à avoir pour l'examen F4. Donc la classe 2, c'est-à-dire le certificat d'opérateur de classe supérieure. Alors, donc nous en sommes à la page 26 et c'est le chapitre 5 qui correspond donc aux connaissances de techniques de base. Alors, premièrement, le texte de réglementation est assez peu bavard là-dessus. Je reprends le texte. Et j'ai lorsqu'on reprend donc le texte officiel, c'est-à-dire l'arrêté du 21 septembre 2000 signé par le Premier ministre, on a dans l'annexe 1 le programme des épreuves, et dans ce programme des épreuves, on a donc la première partie qui est la réglementation. Et on a ensuite un chapitre pardon, qui concerne la partie technique. Donc ce chapitre, c'est en fait le chapitre 3 et le chapitre 4 qui porte qui se nomme le chapitre 3 brouillage et protection et le chapitre 4 antenne et ligne de transmission. Donc il y a pas mal de choses à connaître. Par contre, il est bien compris que ce ne sont que des connaissances de base et qu'en aucun cas on ne développe tout ce qui est tout ce qui est dit dans ce texte. Alors, le premier chapitre, c'est les puissances, les rapports de puissance et les décibels. Donc, ces notions-là sont à connaître, ce qui me semble tout à fait légitime de connaître ce que veut dire une puissance, un rapport de puissance, qui sont donc des décibels. Ça me semble assez légitime de connaître ça, d'autant plus qu'il y a une partie de connaissance de la puissance à l'examen. Donc le pendant technique, c'est bien de le connaître, d'autant plus qu'on parle aussi de décibels à quelques moments dans la partie technique, donc dans la partie réglementation, donc il faut savoir ce que c'est que des décibels. Alors, premièrement, tout ce qui est puissance. Alors, le texte parle d'unité d'énergie. Alors, l'unité d'énergie, c'est-à-dire la chaleur, en fait, la chaleur ou la puissance, l'unité d'énergie, c'est le joule. Son symbole, c'est J. Et il peut se donner soit en joules, soit en watt-heure. Hein, lorsque EDF vous facture de l'énergie, ce n'est pas en joules, c'est en watt-heure, ou au plus exactement en kilowatt-heure. Mais il y a une relation entre watt-heure et joules, qui est que 1 watt-heure est égal à 3600 joules, puisque 1 joule, c'est 1 watt par seconde. Donc 1 watt-heure, c'est 3600 fois plus, puisqu'il y a 3600 secondes en une heure. Et donc 1 kilowatt, bah, c'est 3 600 000 joules. Alors, la puissance, on la note souvent P, c'est-à-dire que lorsque l'on va avoir affaire à des formules, plutôt que de mettre puissance égale, on met P égale. Et cette puissance, elle est donnée en watts, puisque 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Donc cette puissance, on va la donner en watts et on utilise le W majuscule pour noter les watts. C'est-à-dire au lieu de marquer 300 watts et watts W-A-2-T-S, puisque ça se décline, on mettra 100 W avec un W majuscule pour dire watt. Et donc on a cette notion de puissance. Donc qui dit puissance, on parle systématiquement watt. Et lorsqu'on parle de rapport de puissance, dans ce cas-là, on utilise une autre unité qui est plus simple à utiliser quand on a des grands rapports de puissance, qui est le décibel. Alors le décibel, c'est quoi? C'est une unité qui permet d'exprimer un rapport entre deux grandeurs de même nature. Alors, en l'occurrence, ce sont des watts. Dans la partie réglementation, il n'y a que cette grandeur à connaître. Et on a une relation entre le gain exprimé en décibels et les rapports de puissance. Alors, quand on parle de rapport de puissance, c'est toujours de la sortie. On mesure la puissance à la sortie du système. Alors ça peut être très bien un amplificateur, mais ça peut être aussi un système qui induit des pertes, comme par exemple un câble coaxial. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas un gain en puissance, mais on a des pertes. Mais ça se traduit de la même manière en décibels. C'est-à-dire qu'au lieu d'obtenir un gain et donc avoir quelque chose de positif, on a quelque chose de négatif, et un gain en décibels négatif, ça veut dire que c'est une perte. Et ça veut dire aussi que en sortie, on a moins de puissance qu'à l'entrée. Si on a moins de puissance en sortie qu'à l'entrée, c'est qu'il y a eu des pertes. Inversement, s'il y a plus de puissance en sortie qu'en entrée, c'est qu'il y a eu une amplification. Et donc on a 9 rapports de puissance à connaître, tout au moins la transformation du décibel en rapport de puissance, il y a 9 rapports de puissance à connaître, et uniquement 9 rapports, puisque ces 9 rapports sont écrits dans le texte qui se rapporte donc au programme de l'examen. Ces 9 rapports en puissance, c'est premièrement 0 dB. 0 dB, ça veut dire qu'il y a autant de puissance à l'entrée qu'à la sortie. Il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perte. Donc 0 dB, ça veut dire que le système est complètement neutre d'un point de vue puissance. Lorsque le rapport de la puissance de sortie divisé par l'entrée, c'est-à-dire lorsque le gain, lorsque la puissance est multipliée par 2, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de puissance à la sortie qu'à l'entrée, on dit que le gain est de 3 décibels. Lorsque la puissance est multipliée par 4, le gain est de 6 décibels. Donc on voit que quand on multiplie par 2 à chaque fois, en fait on augmente de 3 décibels à chaque fois. Et quand, alors, les autres gains à connaître sont le gain de 10 décibels. 10 décibels correspond à une puissance multipliée par 10. Et 20 décibels correspond à une puissance multipliée par 100. Donc on voit qu'on a 3 décibels, 6 décibels, 10 décibels et 20 décibels qui correspondent à multiplier par 2, multiplier par 4, multiplier par 10 et multiplier par 100. Inversement, on peut aussi avoir des gains négatifs, des gains exprimés en décibels négatifs, et dans ce cas-là, ce sont des pertes. Alors, une perte de moins 3 dB, enfin plus exactement une perte de 3 dB, puisque si c'est une perte, ça ne peut être que négatif. Et quand on dit perte de moins 3 dB, on ne sait pas si c'est si ça peut devenir positif dans ce cas-là. Donc plutôt que de dire, on dit soit un gain de moins 3 dB, ce qui veut dire que c'est une perte, ou on dit une perte de 3 dB. Mais on essaye d'éviter de dire une perte de moins 3 dB parce qu'on ne sait plus le signe du coup si c'est positif ou négatif. Donc lorsque c'est une perte, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la puissance en sortie est inférieure à la puissance que l'on avait en entrée. Donc ça c'est un atténuateur et non plus un amplificateur. Et donc les rapports sont strictement les mêmes que dans le cas du gain, sauf que c'est divisé, c'est-à-dire que moins 3 dB on divise la puissance par 2, moins 6 dB on divise la puissance par 4. Moins 10 dB, on divise la puissance par 10, et moins 20 dB, on divise la puissance par 20. Par 100, pardon. Moins 20 dB, on divise la puissance par 100. Donc, en fait, quand on regarde bien, des 9 rapports en puissance à connaître, le 0 dB, finalement, c'est relativement simple. Les autres, c'est 3, 6, 10 et 20 dB. Et on a les mêmes rapports quand c'est négatif. Donc finalement, des 9 rapports à connaître, finalement il n'y a plus que 4 à connaître. Exemple. Alors, en ce qui concerne les exemples, il y peut y avoir des synoptiques à l'examen. C'est-à-dire que le synoptique va être, c'est un schéma, ce n'est pas une question, ce que j'appelle moi de littérature, c'est-à-dire une question écrite en bon français avec des réponses en bon français. Quand il y a des synoptiques, ça veut dire qu'il y a des schémas. Un schéma d'amplificateur, ça se représente sous la forme d'un triangle. Un triangle dont la pointe, donc elle est dirigée en règle générale vers la droite, et la pointe montre la sortie, alors que la base du triangle, je dirais, c'est là où est appliquée l'entrée. Hein, donc en fait, l'amplificateur dans ce cas-là a une sorte de forme de flèche, et donc l'entrée c'est sur la base de la flèche et la sortie sur la pointe de la flèche ou du triangle comme on veut. Alors sachant qu'un triangle c'est assez difficile à représenter avec un Minitel qui n'accepte pas. Enfin, qui n'accepte que ce qu'on appelle des caractères mosaïques, c'est-à-dire que c'est pas vraiment du dessin, tout au moins c'est du dessin très figuratif et il faut savoir interpréter. Il y a les deux, on peut avoir soit une question de littérature, soit un schéma. Bon, ce sont des schémas toujours relativement simples quand même. Alors, là en l'occurrence c'est une question de littérature, l'exemple que je donne. Un amplificateur a un gain de 6 décibels, sa puissance d'entrée est de 15 watts, quelle est sa puissance de sortie? Donc là on a 15 watts à l'entrée, 6 décibels, et donc on te demande quelle est la puissance en sortie. 6 décibels, quand on regarde le tableau d'au-dessus, ça correspond à une puissance multipliée par 4. Donc 15 fois 4 égale 60, ça fait 60 watts. Donc normalement, 15 x 4, vous devriez savoir le faire de tête et ne pas avoir besoin de calculette. Bon, pour éviter d'être troublé le jour de l'examen, vaut mieux avoir quand même une calculette, parce que pour faire ce genre de calcul, même si c'est très simple, on peut facilement perdre les pélades, d'autant plus qu'en règle générale, dans les réponses, on peut avoir par exemple 80 watts, et de ce fait, on peut se tromper de réponse. Hein. Voilà, parce que bon, dans les réponses, il y en a toujours qui sont approximatives d'une erreur que l'on peut avoir commis. Comme par exemple, on peut aussi avoir 30 watts si par exemple on pense à faire non pas pour 6 dB mais pour 3 dB. De même, on peut avoir 15 x 6 égale 90. Donc si on va un peu trop vite, eh bien on a toutes les chances de ne pas prendre la bonne réponse. Alors, ce qui est important aussi, c'est que par rapport à ces décibels, c'est que lorsqu'on a deux amplificateurs qui sont l'un derrière l'autre, eh bien en fait, les gains en décibels, lorsqu'ils sont calculés en décibels, les gains vont s'additionner. C'est-à-dire que lorsque l'on a par exemple un amplificateur qui a un gain de 13 décibels et qui est suivi par un amplificateur qui a un gain de 7 décibels, on fait 13 plus 7 égale 20, et donc l'ensemble fait 20 décibels. Alors, ce qui est important de bien sentir, c'est que autant le gain de 13 dB et de 7 dB n'est pas au programme de l'examen, par contre le gain de 20 dB est au programme de l'examen. Donc on peut très bien avoir deux amplificateurs l'un derrière l'autre qui ensemble forment un gain de 20 dB, une entrée par exemple qui fait 2 watts, et on va vous demander quelle est la puissance en sortie de ces deux amplificateurs. Et donc là, comme c'est 20 dB, c'est multiplié par 100, avec 2 watts à l'entrée, ça me fait 200 watts en sortie. Voilà un petit peu les questions qu'on peut avoir avec les synoptiques. Concernant, alors même chose, lorsque l'on a des pertes, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un amplificateur suivi derrière, on le verra dans le cours suivant, de ce que l'on appelle un affaiblissement linéique, c'est-à-dire des pertes dans le câble coaxial. Ces pertes, elles se soustraient au gain de l'amplificateur qu'on a eu avant. Et donc, il faut faire attention au sens des décibels. C'est-à-dire que soit c'est positif dans le cas de l'amplification et c'est négatif dans le cas de perte. Les décibels servent aussi, on va le voir à la fin de cette séance, servent aussi à donner le gain d'une antenne. Donc là, on parle toujours de puissance, c'est-à-dire qu'on va parler de puissance d'une antenne par rapport à une antenne de référence qui est soit le doublet, soit l'antenne isotropique. On verra ça quand on fera les antennes. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce qu'on peut dire concernant les décibels. Donc ce qui est important, c'est cette fameuse table et de voir comment elle fonctionne. Deuxième notion sur laquelle il y a des questions, c'est concernant le rendement. Le rendement, ça détermine, alors la définition du rendement, ça détermine la qualité du transfert de puissance. En clair, ça veut dire je regarde la puissance que je consomme par rapport à la puissance que je vais restituer sous une forme qui m'intéresse, c'est-à-dire en particulier pas sous forme de chaleur. Parce qu'il est évident que ça, bon, je pense que tout le monde a déjà vu que les émetteurs, quand on les met en route, ils chauffent, et bien une partie donc de la puissance qui est utilisé par l'émetteur va être dissipé sous forme de chaleur. Et il est évident que plus le rendement est faible, plus la dissipation sous forme de chaleur va être importante et automatiquement le système de ce fait est moins bon. On parle aussi de rendement pour les antennes, c'est-à-dire que en l'occurrence c'est la puissance que l'on fournit à l'antenne, donc la puissance qui arrive sur le câble coaxial, par rapport à la puissance rayonnée. Donc ça c'est aussi le rendement. Bon, ce sont des notions qui sont bien à comprendre, et quand on parle de rendement, systématiquement on fait référence à la puissance. C'est-à-dire qu'on fait le rapport de la puissance utilisée, je dirais, la puissance utile, divisée par la puissance consommée. Alors comme c'est un pourcentage, eh bien ce rapport, on le multiplie par 100 pour obtenir le pourcentage. Exemple, un émetteur consomme 120 watts, c'est-à-dire qu'il est alimenté, en l'occurrence, bon, on n'a pas à connaître cette loi d'Ohm, mais par exemple 10 ampères sous 12 volts, donc ça me donne 120 watts, et pourtant le wattmètre m'indique qu'il sort 80 watts. Donc j'ai 40 watts qui sont disparus en chaleur. C'est gênant. Alors sachant que dans cet exemple-là, c'est un très bon amplificateur, parce que la plupart du temps, malheureusement, les rendements sont beaucoup plus faibles. Donc là, dans mon cas d'un émetteur particulièrement performant, quel est le rendement? Donc le rendement, c'est donc 80 watts, ma puissance utile, multiplié par 100, divisé par 120 watts. Donc ça me fait 66%, font donc 2 tiers. La puissance consommée, mais non émise, est dissipée, perdue en chaleur, et donc la différence, c'est mes 40 watts qui partent sous forme de chaleur. Alors cette notion de puissance aussi est importante, parce que quand on est en modulation d'amplitude, donc en AM, mais aussi en BLU, qui est une autre forme de modulation d'amplitude, la puissance varie tout au cours du temps. D'ailleurs on le voit bien, le wattmètre ne fait que bouger lorsqu'on émet en BLU ou en AM. Donc dans ce cas-là, la puissance, c'est-à-dire la puissance maximum autorisée, c'est bien la puissance, ce n'est pas la puissance moyenne, c'est-à-dire celle qu'indique le wattmètre, puisque le wattmètre il va indiquer une puissance moyenne, puisqu'il se balade entre deux puissances. La puissance maximum autorisée, c'est la puissance de crête, c'est-à-dire sur les pointes, et non pas la puissance moyenne. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette notion que l'on appelle la puissance de pointe de l'enveloppe. Et cette notion de puissance, les wattmètres l'ont parfois, mais quelquefois n'ont pas cette fonction qui est un peu particulière. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi cette puissance la PEP. Peak Envelope Power en anglais, ou puissance de pointe de l'enveloppe, donc ça fait PPE en français. Et c'est donc la puissance de crête. Donc après avoir vu tout ce qui concerne la puissance et tout ce qu'on peut dire dessus, nous allons passer maintenant aux antennes. Alors ça fait partie ça d'un grand chapitre dans le texte de réglementation, et il y a beaucoup de questions dessus. Il y a beaucoup de questions sur cette première partie qu'on vient de voir, sur les décibels, un peu moins sur les rendements et très peu sur cette notion de puissance crête. En revanche, on a des questions très souvent sur les antennes, et on va voir quelles questions on peut avoir. Alors premièrement, ce qui est important, c'est que la longueur des antennes est fonction de la longueur de l'onde que l'on veut émettre. Alors, même si cette notion de longueur d'onde n'est pas écrite de manière, en toutes lettres au programme, il me semble évident qu'il faut connaître cette notion de longueur d'onde et le rapport entre la longueur d'onde et la fréquence. Hein, puisque la plupart du temps, on parle de fréquence, on dit on est sur telle fréquence, par contre, il faut bien se rendre compte que cette fréquence se détermine aussi en une longueur d'onde et qui détermine la taille des antennes. Pas seulement la taille des antennes, mais on va voir que c'est un élément important. Donc il y a une relation entre la longueur d'onde et la fréquence qui est une relation très simple. Alors si on prend la fréquence en mégahertz et la longueur d'onde en mètres, le rapport entre fréquence et longueur d'onde, c'est 300, c'est-à-dire que si on a la fréquence et on veut la longueur d'onde, on fait 300 divisé par la fréquence en mégahertz et on a la longueur d'onde en hertz, en mètres. Inversement, si on a la longueur d'onde en mètres, on fait 300 divisé par la longueur d'onde et on a la fréquence en mégahertz. Donc ça, c'est relativement facile et simple à se souvenir. Hein, c'est 300 divisé par. Alors ce qu'il faut faire très attention, c'est que c'est toujours la fréquence en mégahertz. Et ça, c'est pas toujours autant la longueur d'onde en mètres, ça je pense que tout le monde l'a en tête. Autant la fréquence en mégahertz, faut faire attention de bien transformer déjà la fréquence, enfin déjà vérifier qu'elle soit bien en mégahertz, et si elle n'y est pas, de la transformer en mégahertz. Sachant qu'un mégahertz, c'est 1 million de hertz ou 1000 kHz. Alors, puisque généralement les au-dessus, c'est-à-dire le multiple au-dessus du mégahertz, c'est le gigahertz, et le gigahertz, c'est 1000 mégahertz. Donc bien faire attention à ça. Et puis évidemment, la longueur d'onde, elle est en mètres, mais je pense que transformer des mètres en centimètres ou des mètres en kilomètres, ça doit poser moins de problèmes que de convertir des kilohertz en mégahertz et des mégahertz en gigahertz. Ce sont les longueurs sont des notions beaucoup plus connues que les multiples du hertz. Alors ce qui est aussi important dans le cours, c'est que la longueur d'onde, elle est donnée en mètres, mais elle a un signe particulier. Plutôt que de dire longueur, on utilise la lettre grecque L, enfin lambda exactement, lettre grecque lambda minuscule, et c'est donc cette espèce de on sait pas trop d'ailleurs ce que c'est comme lettre, qui est une sorte de V à l'envers, et qui est donc le lambda pour définir la longueur d'onde. Donc ça, vous allez le voir très souvent dans les antennes, on parle toujours de lambda pour dire lambda, c'est la longueur d'onde. Et la longueur d'onde, évidemment, est toujours en mètres, elle. Alors, les exemples de conversion, c'est quelle est la longueur d'onde de la fréquence 144 MHz. Réponse, donc 300 divisé par 144, puisque je suis en MHz, et ça me donne 2,083 mètres. Remarquez bien qu'on dit toujours la bande des 2 mètres, donc c'est pas complètement faux. Par contre, quand on dit à quelle fréquence correspond la longueur d'onde 14,2 mètres, réponse, 300 divisé par 14,2 égale 21,1 MHz. Donc vous voyez que là, on dit que la bande des 21 MHz c'est la bande des 15 mètres, et ben pas vraiment, puisqu'on est plutôt du côté des 14 mètres. Donc c'est une approximation de dire que on est sur la bande des 15 mètres, hein, puisque le début de la bande, donc là, la fréquence la plus basse qui correspond à la longueur d'onde la plus élevée, on est à 14,5, on n'est pas à 15 mètres. Quelle est la fréquence d'une longueur d'onde de 3 cm? Alors là, ça commence un petit peu à compliquer un petit peu, puisque là on parle plus en mètres, on est en centimètres. Donc il faut déjà convertir les centimètres en mètres, ça fait 0,03 mètres. Et donc on continue, on fait 300 divisé par 0,03. Donc là, il vaut mieux le poser à la calculette, parce que là, avec les zéros qui se baladent, on est sûr de se planter à tous les coups. Et la réponse est 10 000, donc c'est 10 000 MHz. Et 10 000 MHz, eh bien aussi 10 GHz. Donc quand on dit qu'on est sur la bande des 10 GHz, on peut dire aussi qu'on est sur la bande des 3 cm. Voilà, Donc ça c'est pour cette notion de longueur d'onde et de fréquence. Maintenant, on va directement attaquer les antennes. Alors les antennes, déjà une antenne c'est quoi? C'est un système qui permet de faire le transfert de puissance entre une énergie électromagnétique sous forme de courant dans le coaxial vers l'espace ou le vide où se promènent, je dirais, les ondes électromagnétiques. Inversement, une antenne, alors donc ça c'est côté émission, côté réception, c'est donc ça capte les ondes électromagnétiques et ça les transforme en courant électrique qui est récupéré donc par le câble coaxial. Donc ça, ça marche dans un sens et dans l'autre. Hein, une antenne a exactement les mêmes caractéristiques à l'émission qu'à la réception. Ça, c'est très important de bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes caractéristiques, même impédance, on va voir, et même gain. Donc quand une antenne est mauvaise en émission, elle est aussi mauvaise en réception. Et inversement, évidemment. Alors, l'antenne de base, donc l'antenne qui fait référence et sur laquelle on a développé beaucoup d'antennes, c'est l'antenne doublet. C'est l'antenne de base, c'est-à-dire qu'elle est formée de deux quarts d'onde. C'est une antenne demi-onde, donc dont la longueur est égale à une demi-longueur d'onde. Hein. C'est pour ça que sur le schéma, il y a deux fils. C'est une antenne qui est alimentée par son milieu. Donc le coaxial arrive au milieu de l'antenne et cette antenne mesure une demi-longueur d'onde. Alors elle est constituée donc d'un fil d'une longueur égale à une demi-longueur d'onde et est alimentée à son milieu. Ça veut dire que chacun des fils à une longueur d'un quart d'onde. L'impédance, ça c'est une question assez récurrente. L'impédance de cette antenne, alors on vous demande pas pourquoi 73 ohms, mais on vous demande de connaître la valeur. Et d'ailleurs même pour les F4, on demandera jamais pourquoi 73 ohms, c'est très, c'est quelque chose qui se mesure, mais qu'on a beaucoup de mal à démontrer, ça se démontre, mais c'est une démonstration assez complexe quand même. Mais on note que ça fait 73 ohms. Et ça fait 73 ohms uniquement si les brins sont alignés, c'est-à-dire que si on a bien un fil tendu et qu'il est alimenté par son milieu. Si on a les deux fils qui ne sont plus dans le prolongement l'un de l'autre, l'impédance n'est plus la même. De même, ce 73 ohms n'est valable qu'en espace libre, c'est-à-dire si l'antenne est loin de tout élément qui pourrait modifier son comportement, en particulier le sol, ou une autre antenne juste à côté, ou n'importe quelle partie métallique, ou non métallique d'ailleurs. Du moment qu'il y a un élément perturbateur, quel qu'il soit, eh bien l'impédance n'est plus de 73 ohms. En règle générale, elle diminue, mais il y a aussi des cas où elle augmente. Enfin bon, dans la majorité des cas, quand même, cette impédance diminue. Lorsque les deux fils ne sont plus en continuation l'un de l'autre, mais forment un angle de 120 degrés, l'impédance devient 52 ohms. Et lorsqu'ils forment un angle droit, donc 90 degrés, l'impédance devient 36 ohms. Donc ça, c'est les trois impédances que peut prendre le doublet demi-onde selon l'angle que forment les brins. Donc, quand ils sont dans le prolongement l'un de l'autre, 73 ohms, 120 degrés, ça me fait 52 ohms, et s'ils sont à 90 degrés, ça fait 36 ohms. Vous remarquerez quand même que le 36 ohms, c'est la moitié du 73 ohms. Alors, le doublet demi-onde replié. C'est comme le doublet demi-onde, sauf qu'en fait, on a un fil qui part de l'extrémité et qui rejoint l'autre extrémité. Et ce fil est très proche de, du dipôle, en fait. Et donc, mon doublet demi-onde replié fait toujours une demi-longueur d'onde de longueur. Mais quand on compte, en fait, l'intégralité du fil, puisque en fait, il y a un aller et un retour, eh bien, le fil fait une longueur d'onde de longueur. Et dans ce cas, et si l'espacement entre le fil de retour et le dipôle est très faible, eh bien l'impédance est de 300 ohms. Et lorsque ce fil s'éloigne, eh bien l'impédance diminue, et quand le fil forme à peu près un carré, ce qu'on appelle une quad, eh bien l'impédance est d'environ 150 ohms. Alors ce qu'il y a à connaître, c'est uniquement le 300 ohms. Et évidemment, ça c'est valable que si le point d'alimentation est placé au milieu du dipôle. Si on le place à l'extrémité du dipôle, ça marche plus, ce n'est plus 300 ohms, c'est autre chose. Et évidemment, comme pour le doublet demi-onde, ce 300 ohms n'est valable que si et seulement si le doublet demi-onde replié est en espace libre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien autour de lui qui le perturbe. Ce qui est toujours très dur à obtenir. Troisième antenne. Donc là, première antenne doublet demi-onde, deuxième antenne doublet demi-onde replié, impédance 300 ohms, la longueur de l'antenne est toujours la même, lambda sur 2. Et maintenant, nous voyons l'antenne quart d'onde. Eh bien, l'antenne quart d'onde, comme son nom l'indique, eh bien, elle forme, sa longueur est de lambda sur 4. Et en fait, ce que c'est un seul morceau d'un dipôle. Et donc, l'autre morceau du dipôle, puisqu'en fait, elle est alimentée à sa base, et quand on regarde le schéma, on s'aperçoit que une partie, alors en règle générale, hein, l'alimentation se fait, puisque un câble, il y a une âme et une tresse, ou lorsque c'est une échelle à grenouille, on verra ça quand on fera les lignes d'alimentation, on a toujours deux fils, hein. Soit c'est âme et tresse, ou alors on a les deux fils dans le cas du ce qu'on appelle l'échelle à grenouille, c'est-à-dire qu'en fait la ligne bifilaire. Et donc quand on alimente les antennes, en particulier le doublet ou le trombone, hein, puisque l'autre nom de doublet demi-onde replié, ça s'appelle un trombone, cette antenne, on alimente d'un côté l'âme et de l'autre côté la tresse. Indépendamment, normalement ça ne change rien. Ça ne change rien quand on est en espace libre. Mais dès qu'on va se retrouver dans les situations classiques, c'est-à-dire près du sol et près du pylône ou d'autres antennes, eh bien cette antenne va avoir des réactions, et selon qu'on l'alimente d'un côté ou de l'autre, va pas avoir la même réaction. Donc ça fait partie ça des essais à mener quand on voit qu'une antenne fonctionne mal. Donc pour revenir à mon antenne quart d'onde, eh bien là je l'alimente, l'âme je le mets sur l'élément quart d'onde, et la tresse je la mets à la masse ou sur le plan de sol. Ce plan de sol, en fait, ça me permet de reconstituer artificiellement le deuxième brin qui n'existe pas, mais qui électriquement en fait existe. On a l'impression que du fait de brancher directement sur le plan de sol. Alors le plan de sol peut, on verra ce que c'est juste après, mais c'est en fait un élément un peu métallique, enfin métallique, qui permet de reconstituer l'autre brin celui qui a disparu dans le cas du quart d'onde. Donc ce plan de sol, c'est souvent des radians, donc ce sont des morceaux de métal d'une certaine longueur, généralement longueur d'un quart d'onde, qui sont à la base de l'antenne. C'est ce qu'on appelle des radians, ou tout simplement c'est une masse. Typiquement, c'est l'antenne que l'on pose sur la voiture, et en fait le contrepoids, c'est la carrosserie de la voiture. Ou tout simplement un piquet enfoncé dans la terre avec suffisamment d'humidité pour faire un bon contact et avoir une bonne terre, puisque si on met un piquet juste comme ça, malheureusement, surtout quand c'est des cailloux, ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà comment fonctionne le quart d'onde. Donc le quart d'onde, c'est une antenne verticale. D'ailleurs, c'est son autre nom, c'est l'antenne verticale. Alors comme le plan de sol, dans mon cas présent, là, forme un angle de 90 degrés avec le brin rayonnant, donc cette antenne verticale, eh bien l'impédance est de 36 ohms. En revanche, si mon plan de sol, c'est-à-dire que si les radians formaient un angle de 120 degrés, eh bien l'impédance de cette antenne verticale serait de 52 ohms. Voilà. Donc voilà ce que c'est que cette antenne quart d'onde. Alors les Anglais appellent ça une antenne GP, antenne ground plane. Ça veut dire que c'est une antenne qui a besoin d'une terre. Donc quelquefois à l'examen, on a cette notion d'antenne GP. Une antenne GP, c'est une antenne quart d'onde verticale. Alors on peut utiliser un brin plus court que le quart d'onde, mais dans ce cas-là, on va le rallonger artificiellement avec une bobine en son milieu. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe dans les antennes décamétriques pour le mobile, où on voit des bobines au milieu de l'antenne verticale. Et donc cette bobine a pour effet de rallonger artificiellement l'antenne. Alors elle rallonge l'antenne, par contre elle va avoir une incidence sur l'impédance de l'antenne et aussi sur le rendement de l'antenne, c'est évident. Alors, les exemples de questions, alors outre les impédances et les longueurs de l'antenne, donc on l'a là. Sur l'impédance, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas trop de calcul à faire. Par contre, on peut avoir des calculs sur la longueur d'une antenne. Et par exemple, on peut avoir un dipôle mesure 7,04 m de long. Sur quelle fréquence en mégahertz résonne-t-il? Donc si c'est un dipôle, donc c'est une antenne demi-onde. Donc l'antenne résonne sur une longueur d'onde de 7,04 multiplié par 2, faut que je multiplie par 2, donc c'est 14,08 m, et 300 divisé par 14,08 égale 21,3 MHz. De même, quelle est la longueur d'onde en centimètres d'une antenne quart d'onde fonctionnant sur 144 MHz? Réponse, la longueur d'onde de la fréquence 144 est 300 divisé par 144, donc 2,083 m comme on avait vu tout à l'heure. L'antenne quart d'onde fonctionnant sur cette fréquence aura pour longueur 2,083 m divisé par 4. Ça me fait 0,52 m, soit 52 cm. Dans la pratique, on va s'apercevoir que le 52 cm, c'est un tout petit peu trop long. Alors c'est pourquoi? Parce que en fait, dans un fil, les ondes ne se déplacent pas exactement à la vitesse de la lumière, ils se déplacent un tout petit peu moins vite. Donc, en fait, alors, un tout petit peu moins vite, mais de combien? Eh bien, ça dépend, en fait, du matériau qu'on va utiliser pour faire l'antenne. Donc, comme ça, on est très, très bien avancé. Mais la moralité de la chose, c'est qu'il vaut mieux le tailler sous forme d'un quart d'onde, quitte à le raccourcir à coups de tenaille, plutôt que de couper trop court au départ et d'être coincé après de tout recommencer parce que l'antenne n'est pas taillée à la bonne longueur d'onde. Donc, en règle générale, le taux de diminution, c'est environ 5%. Le fil de cuivre, c'est grosso modo 5%. Et ça marche relativement bien. Pour d'autres matériaux comme l'aluminium, par exemple, il y a d'autres coefficients. Voilà, donc dans notre cas de dipôle là, de 52 cm, ça correspond à 49,4 cm quand on a le coefficient de raccourcissement de 5%. Alors évidemment, ce coefficient de raccourcissement, c'est valable pour toutes les antennes. Hein. Pas spécialement pour le quart d'onde, ça marche aussi évidemment pour le demi-onde, pour le trombone et le doublet demi-onde. Alors, quatrième antenne, c'est ce que l'on appelle l'antenne Yagi ou BIM. Alors BIM, c'est de l'anglais et BIM veut dire diriger. Donc quand on dit antenne BIM, ça veut dire antenne directionnelle en clair. Yagi, c'est le nom de son inventeur. D'ailleurs, ils étaient deux. Il y avait Monsieur Uda et Monsieur Yagi qui étaient deux Japonais. Donc le nom officiel de l'antenne, c'est l'antenne Yagi Uda. Mais bon, Uda est tombé aux oubliettes. Et il n'a resté que Yagi. On avait dit tout à l'heure que lorsque, quand on parlait de l'impédance de l'antenne, que c'était quand tout se passait bien, c'est-à-dire qu'elle était en dehors de tout élément perturbateur. Et bien là, c'est exactement ce que l'on va faire. On va mettre des éléments perturbateurs, des éléments parasites, à côté de l'antenne, mais ces éléments parasites, on va Monsieur Yagi a eu la bonne idée de les positionner à une position bien particulière qui va en fait donner un effet directionnel. C'est-à-dire qu'en fait la puissance va être dirigée dans une certaine direction. Et sur le schéma, on a le dipôle, donc l'élément rayonnant qui se trouve au milieu. Et on va avoir des éléments, des parasites directeurs, c'est-à-dire qui vont diriger le rayonnement devant. Ces éléments vont être plus courts et ils sont placés à une certaine distance du dipôle. Inversement, des éléments qui sont plus longs vont être placés derrière le dipôle et qui vont avoir donc un effet réflecteur. Donc voilà les deux éléments parasites. Alors évidemment, on peut rajouter des directeurs devant et des réflecteurs derrière. En règle générale, d'ailleurs, on rajoute plutôt des directeurs que des réflecteurs, puisque ce sont un directeur rajoute plus de gains que de rajouter un réflecteur. Donc, alors évidemment, ils ont une certaine dimension et on doit les positionner à une certaine distance du dipôle. Tout ça se mesure évidemment en longueur d'onde. Alors, le fait de rajouter ces éléments, eh bien, ça va faire diminuer l'impédance de mon élément rayonnant. Donc de 73 ohms, et bien quand on va rajouter des éléments parasites, et bien l'impédance va diminuer. Et diminuer tellement que quelquefois, et bien ça descend largement en dessous des 50 ohms, qui sont, comme on le verra plus tard, absolument nécessaires pour l'alimentation du câble coaxial. Et de ce fait, on va utiliser non plus le doublet demi-onde, mais directement un trombone. Donc, puisque les 300 ohms, si on rajoute beaucoup d'éléments, eh bien, vont se transformer, je dirais, en 50 ohms, du fait de rajouter ces éléments parasites. Et de ce fait, l'impédance diminue. L'impédance diminue, mais par contre, mais ça n'est absolument pas lié, on a un effet directif, c'est-à-dire que la puissance est concentré dans une direction et une seule. Et ce qui explique pourquoi on a cette notion de gain pour une antenne, c'est-à-dire que elle émet plus dans une direction que dans une autre direction. Et lorsqu'on a un correspondant en face de soi, le correspondant a l'impression qu'on a une puissance plus importante du fait de cette antenne, évidemment, quand on est dirigé dans sa direction. Il est évident que lorsque l'antenne n'est plus dirigée dans sa direction, il va s'apercevoir de la supercherie. Donc le gain d'une antenne se mesure par rapport à deux antennes. Alors il y a une antenne qui est réelle, qui est le doublet, comme c'est l'antenne de base, donc on regarde la puissance. C'est ce qu'on appelle la puissance apparente rayonnée, hein, qu'on verra plus tard. C'est en fait, on a l'impression que cette antenne amène de la puissance lorsqu'elle est dirigée évidemment vers notre correspondant. Et donc ce gain se mesure soit par rapport à l'antenne doublet demi-onde, soit par rapport à une antenne qui n'existe pas, qui n'existe que dans la tête des scientifiques, qui s'appelle l'antenne isotropique. En fait, l'antenne isotropique, c'est quoi ? C'est une antenne qui n'a pas de longueur, qui est un point, et qui rayonne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de... elle n'a pas de longueur d'onde. De ce fait, elle fonctionne sur toutes les fréquences, ce qui est vraiment extraordinaire. Et elle émet uniformément autour d'elle. En fait, c'est comme si c'était une boule qui émettait. Et de ce fait, eh bien, la puissance est strictement identique dans toutes les directions. Alors, quand on parle de gain des antennes, on est obligé de parler de ce qu'on appelle des diagrammes de rayonnement. C'est-à-dire que chaque antenne, évidemment, n'émet pas uniformément dans toutes les directions, sauf cette fameuse antenne isotropique. Lorsque l'on parle de, par exemple, d'antenne verticale, autant elle émet tout autour d'elle de manière uniforme, puisque c'est son principe même. Étant verticale, l'onde est formée tout autour d'elle, et de ce fait se propage d'un point de vue rayonnement horizontal, c'est-à-dire elle se propage tout autour d'elle. Par contre, l'onde ne se propage pas vers le haut, vers le zénith, elle ne se propage pas. Elle va se propager, grosso modo, aux alentours de 30 ou 40 degrés au-dessus de l'horizon. Hein, donc c'est un petit peu la représentation qui est faite des rayonnements, donc le rayonnement vertical qui est le rayonnement vu de côté, le rayonnement horizontal c'est le rayonnement qui est vu du dessus de l'antenne pour savoir dans quelle direction elle rayonne. L'antenne Cardon, donc elle fonctionne d'un point de vue horizontal, de rayonnement horizontal, elle va émettre tout autour d'elle. Par contre, on voit qu'elle émet non pas en direction de l'horizon, ce qui est très bien quand on veut faire de la longue distance, mais plutôt elle va tirer, je dirais, entre 30 et 40 degrés en hauteur. Évidemment, ça dépend un petit peu de la qualité du sol et de tout ce qui est autour. Hein. C'est pas aussi facile que ça à dire comment fonctionne une antenne. Ça ne peut sur les brochures des commerçants, ça, c'est très facile. Quand on est dans la réalité des choses, c'est un peu moins facile. Le doublet, lui, eh bien, comme ces fils, en fait, le rayonnement va se faire tout autour du fil. Donc, dans le prolongement des brins, eh bien, le rayonnement ne se fait pas. Donc, en fait, les correspondants qui seraient dans la continuité des brins, eh bien, seront fortement atténués par rapport à ceux qui sont perpendiculaires aux brins. Et donc, ça se voit, ça, tant du point de vue rayonnement vertical, puisque là, on est bien, lorsque l'antenne est suffisamment, je le répète, lorsque l'antenne est suffisant et dans une position idéale, c'est-à-dire hors de tout élément perturbateur et en particulier le sol. Quand on dit loin de tout élément perturbateur, c'est-à-dire au moins à plus de 10 longueurs d'onde. Donc autant c'est relativement pas facile, mais ça ne pose pas trop de problèmes, je dirais, à partir de 400 MHz, ça commence à en poser en 2 mètres, en décamétrique, et par exemple sur la bande 80 mètres, c'est absolument impossible. Donc, ce diagramme de rayonnement idéal, en fait, n'existe pas. Donc ça rassure tout de suite. De même, le rayonnement horizontal, si revu du dessus, on voit que lorsque le correspondant est dans le prolongement des brins, eh bien la puissance est très réduite. Par contre, elle est bonne et maximale plutôt dans le sens du perpendiculaire lorsqu'il est perpendiculaire au brin, à l'axe des brins. Troisième antenne qui existe, mais quatrième schéma, c'est l'antenne Yagi, où on voit que, alors là j'ai exprès dessiné le sol pour montrer l'effet du sol. Sans le sol, l'antenne dans le rayonnement vertical émettrait parfaitement vers l'horizon, mais comme il y a le sol, l'angle de départ est légèrement levé. Par contre, d'un point de vue horizontal, on voit que la puissance est concentrée vers l'avant de l'antenne. Et sur l'arrière, on a quelques ce qu'on appelle des lobes de rayonnement, mais qui sont très réduits. Et quant aux lobes de côté, eux, ils sont... plus une antenne a d'éléments directeurs, plus ses lobes de côté sont, ce qu'on appelle les lobes latéraux, sont atténués. Donc cette notion de puissance apparente rayonnée, c'est la puissance d'alimentation de l'antenne multipliée par le rapport arithmétique correspondant au gain de l'antenne. C'est-à-dire que quand on dit une antenne à 3 décibels par exemple de gain, c'est-à-dire qu'elle multiplie la puissance par 2 par rapport à ce que on aurait si on utilisait un dipôle ou une antenne isotropique. Donc si on utilise un dipôle, ce sont des gains en décibels, en dBd, hein, c'est le constructeur qui vous donne un gain en dBd, ou en dBi. Généralement d'ailleurs je vous donne du dBi parce que pour lui il gagne un petit peu de décibels comme ça, il gagne un peu plus de 2 dB. Rien qu'en changeant cette référence, et c'est vrai que sur la documentation, ça fait tout de suite mieux, sachant qu'un simple doublet a déjà un gain de 2,14 dB. Alors, donc c'est cette puissance, la PAR, ça correspond à la puissance qu'il faudrait appliquer à un dipôle pour avoir la même puissance rayonnée dans la direction la plus favorable de l'antenne. Voilà, donc alors évidemment il y a quelques questions portant sur cette puissance apparente rayonnée, mais qu'on verra lorsque l'on fera les lignes de transmission j'ai tout mis ensemble. Cette notion de PAR, puisque la PAR vient en fait contrebalancer, surtout d'ailleurs dans les UHF et les VHF, ce gain des antennes vient contrebalancer la perte dans le coaxial, puisque plus on augmente, plus on monte en fréquence, plus la perte dans le coaxial est importante. Et plus on monte en fréquence, plus il est facile de faire des antennes à gain, puisque les contraintes mécaniques sont beaucoup moins importantes, puisqu'on est toujours en rapport avec les longueurs d'onde. Donc autant il est facile de faire une antenne en 144 avec 9 éléments, autant une antenne sur le 80 mètres à 9 éléments, c'est complètement prohibitif, et il y a très peu d'OM, je pense pas même qu'il y en ait, qui puisse réaliser ce genre d'antenne, parce que physiquement, ça devient complètement délirant. Les plus grosses antennes directives sont sur le 40 mètres et couramment elles sont au maximum sur la bande des 30 mètres. Voilà, donc concernant l'angle d'ouverture des antennes, il y a très peu de questions là-dessus, mais bon, il faut savoir ce que c'est. Quand on parle de l'angle d'ouverture, c'est en fait quand on a une antenne directionnelle, le problème, c'est souvent qu'il faut bien être dans l'axe de son correspondant, sinon en fait la puissance diminue très vite. Et donc de ce fait, bah. L'avantage d'avoir une antenne très très directive devient assez rapidement un handicap si on peut pas recevoir correctement son correspondant sans être réellement dans la bonne direction. Donc en fait l'angle d'ouverture c'est l'angle pour lequel la diminution du gain n'est que de 3 décibels, c'est-à-dire qu'on lorsqu'on perd la moitié de la puissance seulement, ça correspond donc à l'angle d'ouverture. Mais très peu de questions là-dessus. Le gain avant-arrière, c'est le rapport de la puissance vers l'arrière de l'antenne, qui est le lobe principal en fait. On s'aperçoit que le lobe arrière, c'est le lobe principal. Le principal objet, je dirais, puisque quand on a sur une antenne directive, on a ce qu'on appelle le lobe principal, c'est-à-dire le lobe vers l'avant, et le lobe vers l'arrière, c'est le deuxième pôle de puissance. Sur le côté, c'est beaucoup moins important. Et donc, ce gain avant-arrière, ça donne le rapport de puissance qu'il y a entre les deux directions. La polarisation, il n'y a pas de question dessus, mais c'est toujours bon de savoir de quoi on parle. Polarisation, c'est en fait la position du brin rayonnant. Soit il est vertical, et dans ce cas-là on est en polarisation verticale, soit il est horizontal et on est en polarisation horizontale. Donc c'est la position du brin rayonnant. Sachant que on peut avoir d'autres types de polarisation, ne serait-ce que déjà la polarisation oblique, c'est-à-dire que l'antenne elle est à mi-chemin entre les deux, elle est entre verticale et horizontale, et on peut aussi avoir des polarisations dites circulaires, c'est-à-dire que l'onde en fait arrive comme une sorte de tire-bouchon. En fait, elle tourne, elle arrive en tournoyant sur l'antenne, donc elle peut tournoyer dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce cas là c'est la circulaire droite, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et c'est la circulaire gauche. Alors en règle générale, quand on veut faire tourner la polarisation, on la fait tourner vers la droite. Ça c'est parce que lorsqu'on émet en polarisation circulaire droite, on reçoit aussi en polarisation circulaire droite. Donc, cette polarisation circulaire, c'est essentiellement pour les UHF et les VHF, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en décamétrique, l'onde elle-même, lorsqu'elle fait des rebondissements sur la ionosphère ou sur tous les obstacles, en fait, elle change de polarisation. Donc, c'est pour ça que cette notion de polarisation est très peu enfin, c'est pas une notion qui est très importante en décamétrique, autant elle devient lorsqu'on est dans les UHF ou les VHF, puisque là il faut être dans la même polarisation que son correspondant. Autre notion qui est au programme, mais très peu de questions dessus, concerne le multidoublet, ou ce qu'on appelle aussi le doublet avec trappe. Alors le multidoublet, en fait, c'est avoir sur le même point d'alimentation plusieurs doublets de longueurs différentes, et de ce fait l'onde choisit le doublet qui lui convient le mieux. Alors ça fonctionne très bien. J'ai utilisé ça très longtemps dans mon autre résidence auparavant, et ma foi, ça marchait très bien. J'avais trois bandes sur chaque j'avais trois dipôles qui est alimenté par un seul coaxial. Ça évite comme ça d'avoir plusieurs coaxiaux qui montent sur la terrasse, sur le toit de la terrasse de l'immeuble. Et autre solution, c'est d'ajouter une trappe. Une trappe, c'est un circuit qui bloque une fréquence. En l'occurrence, sur le schéma là qu'il y a sur la page 28, le dipôle du haut, en fait, est la première partie du dipôle est commun aux bandes 1 et 2. Ensuite, on a une trappe qui bloque la bande 1. Donc, c'est un circuit bouchon qui bloque la fréquence de cette bande 1 et empêche l'onde d'aller plus loin. Par contre, elle n'empêche pas l'onde de la bande 2 de continuer sa course. Et de ce fait, elle va aller jusqu'au bout du fil. Alors évidemment, cette trappe, elle va perturber un petit peu la longueur du fil pour la bande 2, parce qu'elle va... on verra ça quand on fera les circuits oscillants, puis quand on reverra les antennes dans la partie technique, mais cette trappe va perturber un petit peu la longueur du deuxième dipôle qu'on a rajouté derrière. Voilà. Dernière chose concernant les antennes, les réflecteurs paraboliques. Les réflecteurs paraboliques, en fait, on appelle ça des antennes paraboliques. En fait, c'est pas des antennes, c'est un réflecteur. L'antenne elle-même, c'est ce qu'il y a devant la parabole. C'est-à-dire que c'est là où se concentrent toutes les ondes qui arrivent sur la parabole, qui se reflètent sur la parabole et qui arrivent au centre de l'antenne qu'on appelle le foyer. Et c'est sur ce foyer que se trouve, en fait, l'antenne, soit d'émission, soit de réception. Et la parabole n'est juste là que pour concentrer, un petit peu par effet d'optique, pour concentrer les ondes. À l'examen, il ne doit pas y avoir de questions sur la répartition tension-intensité dans une antenne. Cette notion est vue pour la classe 2. Mais en tout état de cause, ce n'est pas indiqué dans le texte de réglementation. Donc ceux qui veulent en savoir un peu plus peuvent regarder les paragraphes 9.4 et 9.5, donc les dipôles et quart d'onde. Alors il y a eu quelques questions sur cette répartition tension et intensité, mais à mon sens ce n'est pas au programme. Et en plus c'est quelque chose qui me semble moi assez compliqué à expliquer, donc on le conçoit assez intellectuellement assez facilement. Par contre, à essayer de voir comment ça fonctionne en dehors du cas du dipôle et ou du quart d'onde, c'est assez compliqué. Enfin, en tout cas, c'est cette répartition des tensions et des intensités qui génère l'impédance des antennes. Voilà, donc c'est ainsi se termine ce cours. La partie suivante va concerner donc les lignes de transmission. Sur ce, on va s'arrêter là et j'espère que j'ai pas oublié quelque chose par rapport à ce qu'on avait dit dans le cours que malheureusement je n'ai pas pu enregistrer. Enfin, tout au moins j'ai enregistré, mais il y a eu un problème dans l'enregistrement, si bien que j'ai pas pu récupérer le fichier. Voilà. Donc à une prochaine fois.